I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Savoir dire aussi de quoi on a envie, de quoi on n'a pas envie.
Au-delà de l'aspect médical, l'envie, elle n'était pas là en fait, parce que moi, voilà, j'avais des contractions tous les jours.
Déjà, pour moi, la tendresse ou le contact avec l'autre fait partie de la sexualité.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants. Bonjour Judith.
Bonjour Mathilde.
Je vous en prie, entrez, installez-vous.
Merci.
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Judith ?
Eh bien, j'ai quelques interrogations sur ma sexualité post-grossesse. Voilà, je suis maman de deux jumeaux de 19 mois, avec une grossesse qui a été on ne peut plus compliquée. Et voilà, aujourd'hui, c'est vrai que je cumule plusieurs statuts, dont celui de maman et de femme, et j'ai un peu du mal à concilier les deux sur l'aspect, en tout cas, sexualité. Donc voilà, je m'interroge sur plusieurs points, et c'est un sujet que j'aimerais travailler à l'avenir pour retrouver ce statut de femme qui a été un peu éclipsé par celui de maman.
Qu'est-ce qui s'est passé pendant votre grossesse, Judith ?
Alors moi, j'ai eu une grossesse qui, dès la troisième semaine, s'est avérée compliquée, puisque j'ai une grossesse multiple, donc j'ai donné naissance à des jumeaux, mais en fait, j'ai eu des problématiques de contractions précoces, de menaces d'accouchement prématuré. J'ai aussi une grossesse triple au départ qui est devenue double. Et donc, mes premiers mois de grossesse ont déjà donné lieu à pas mal d'examens, voire d'interventions médicales. Et à 4 mois et demi de grossesse, j'ai failli accoucher. Donc, j'ai eu un cerclage à chaud du col de l'utérus, qui est une intervention, comme on l'imagine, assez costaud physiquement. Et par suite, j'ai été strictement alitée, en plus d'avoir été hospitalisée, etc. etc. Mes enfants sont nés à 7 mois de grossesse. Donc prématurée. Donc voilà, j'ai eu une grossesse qui a été un petit peu symbolisée par un combat quasi quotidien à partir du premier mois et demi de grossesse et jusqu'au bout. Voilà. Donc
du coup, quel a été l'impact de tout ça dans votre sexualité à ce moment-là ?
Ah clairement, on n'a pas eu, après le premier mois de grossesse, on n'a plus de rapport avec mon mari, puisque d'abord, on a une grossesse triple qui a été en grossesse double. J'étais déjà à risque là-dessus, puisqu'il y avait déjà un des embryons qui n'était plus là. Et puis ensuite, avec des contractions et une menace d'accouchement prématuré et un cerclage du col, évidemment, tout rapport était prohibé. Et au-delà de l'aspect médical, l'envie, elle n'était pas là, en fait, parce que moi, voilà, j'avais des contractions tous les jours, des saignements au départ. Donc c'est vrai qu'on n'était pas dans ce schéma-là avec mon mari. Donc il y a eu beaucoup de tendresse, beaucoup de baisers, une cohésion, un esprit d'équipe dingue. Mais on était dans le combat et on ne va pas se mentir dans l'angoisse. Voilà, à 4 mois et demi, on vous dit vous allez accoucher, vos bébés ne sont pas viables. Voilà, on se met en mode combat. Et puis moi, j'ai été alitée de 4 mois et demi à 7 mois de grossesse. Donc voilà, ça a exclué en tout cas l'acte sexuel avec pénétration.
C'est quelque chose qui a été posé par les médecins, le fait qu'il ne fallait pas que vous ayez de rapport sexuel ?
Oui, alors ça a été suggéré, je dirais, entre le premier mois et demi et le quatrième mois et demi de grossesse. Et ça a été vraiment très posé au moment du cerclage du col. Oui, parce qu'en fait, moi, je contractais tout le temps. En permanence, je contractais de plus petite à plus forte intensité. Mais, donc oui, clairement, à partir du moment où j'étais opérée, c'était totalement prohibé, effectivement. Ouais.
Oui, donc là, vous dites bien, Judith, qu'il y avait à la fois l'aspect médical,
oui,
et puis le fait qu'il y avait un enjeu vital pour vos bébés en devenir, et que ça a pris le dessus sur la libido, le désir. Du coup, ça a relégué la sexualité, voilà, en arrière-plan complètement.
Complètement. Ouais, bien sûr, c'était plus un sujet. Et puis, voilà, je pense que la sexualité, c'est quelque chose qui est assez vite impacté par de la fatigue, de l'angoisse, etc. Donc là, on était en plein dedans, enfin, dans l'aspect angoisse, en tout cas. Et on était, oui, en mode futur parent et couple combatif. Effectivement, ça a été relégué bien loin.
Si on remonte un petit peu en arrière, comment elle se passait, votre sexualité, avant d'avoir des enfants ?
Écoutez, plutôt, enfin, à mon sens et à celle de mon mari aussi, puisqu'on partage beaucoup, plutôt bien. Après, je dirais pas de base que tous les deux on ait un besoin d'acte sexuel tel qu'on l'entend classiquement avec pénétration tous les jours, quoi. Voilà, on n'est pas ce genre de couple, avoir des rapports très très fréquents, etc. Mais je dirais que c'était très qualitatif, toujours beaucoup de tendresse, de plaisir, etc. Mais que déjà, en tout cas de mon côté et un peu de mon mari aussi, cette sexualité être impactée par les périodes de grande fatigue, de stress. C'est vrai qu'on avait on a toujours des métiers comme beaucoup de personnes qui sont pas mal challengeants. Moi, à une époque, j'étais avocate, donc j'avais des gros horaires aussi. C'est vrai, quand vous rentrez à 21h, 22h, honnêtement, vous n'avez pas forcément envie. Donc moi, j'étais très impactée par mon environnement, en fait, par rapport à ça. Et là où j'avais envie, j'étais le plus épanouie, c'est dans des moments où j'avais un peu plus le temps et où je sentais que le corps était plus reposé, l'esprit aussi, et que j'étais plus ouverte à ça. Mais non, très, très, très agréable. Mais effectivement, qui subissait, je dirais, les aléas de la vie, voilà.
Et une fois que vos jumeaux sont nés, alors, comment les choses se sont passées?
Déjà, ils sont nés en pleine santé, donc c'était une vraie victoire. Mais ils ont été hospitalisés quasiment un mois à la naissance. Donc ce mois coïncidant aussi avec le postpartum, on était encore une fois pas dans un esprit de se retrouver tous les deux en termes de sexualité. On était toujours en mode combatif pour nos enfants, parce que même si on a su très vite qu'ils allaient aller plutôt bien, il y a de l'aléatoire. Les soins intensifs et la néonatalité, du jour au lendemain, il peut y avoir un sujet. Donc ce premier mois, qui a aussi coïncidé pour moi avec ma reprise un peu d'une activité physique, parce que j'ai quand même été couchée 2 mois et demi. Tout était à reconstruire. Je me rendais compte que j'avais des douleurs au dos, que j'avais une fonte musculaire importante. Et en même temps, on était hyperactifs. Alors, on se levait le matin, on allait à l'hôpital. Moi, je voulais allaiter, donc je tirais mon lait. Je me réveillais la nuit 2 fois pour pouvoir tirer mon lait. Enfin voilà, on n'était pas là-dedans, mais quand même toujours corporellement très proche avec mon mari. Voilà. Beaucoup de caresses, beaucoup de tendresse. On peut être un peu collés, quoi, tout le temps. Donc corporellement, il y avait quelque chose encore du couple, mais non, la sexualité en tant que telle qu'on l'entend classiquement, c'était pas la priorité à ce moment-là. Ensuite, il y a eu le retour à la maison avec 2 bébés, très intensif, préma, donc on avait aussi encore un suivi médical à la maison. Voilà, et en fait, mon fils a eu un RGO, donc un reflux gastro-œsophagien assez costaud, ce qui veut dire que mon fils ne dormait pas. Très peu le jour, très peu la nuit. Donc on faisait des permanences, on se relayait, etc. Et mon fils, jusqu'à 14-15 mois, dormait très, très, très mal la nuit. Donc forcément, une fatigue accumulée, c'était pas complètement ça. Néanmoins, une fois ma rééducation du périnée faite, à 5-6 mois de grossesse, on était confinés et mes enfants commençaient à faire des siestes un peu plus longues. Et à ce moment-là, avec mon mari, on s'est un petit peu retrouvés, effectivement. Premier rapport, je pense comme beaucoup de femmes, après grossesse, moi en plus, il y avait eu quand même des manœuvres gynécologiques, des interventions multiples, une petite appréhension, ça s'est très bien passé, voilà, beaucoup de tendresse, dans l'échange, du plaisir, c'était assez rigolo parce qu'on se dit « oh là là, ça se trouve, ils vont se réveiller vite, vite, vite », et en même temps, on n'avait pas envie d'aller vite, donc très chouette. Puis l'été est venu, plus de siestes, les vacances, voilà, il y a eu une embellie. Je dirais, on a réussi à se retrouver un petit peu plus. Et ma reprise du travail, la rentrée, les nuits de mon fils encore assez perturbées, puisque à la rentrée de septembre 2020, il avait 12 mois à peine. C'est vrai, on réespaçait ces échanges et ces rapports qu'on avait avec mon mari, clairement. Voilà. Donc pas simple tout ça.
Bien sûr. En tout cas, vous dites bien, hein, Judith, à quel point il y a des allers-retours. En tout cas, c'est fluctuant aussi en fonction de ce que vous vivez, de la fatigue. Là, vous venez de dire avec la reprise du travail que c'est à nouveau été un élément perturbateur.
Complètement.
Oui. Dans votre sexualité. Comment aujourd'hui vous vous sentez dans votre corps et par rapport à votre sexualité?
Aujourd'hui, disons que corporellement, en apparence, plutôt bien, parce que j'ai retrouvé peu ou prou le corps que j'avais avant grossesse. Alors évidemment, il se modifie un peu, un tout petit peu plus mou, une poitrine qui a quand même pris un petit peu, enfin qui a, j'aime pas dire subir, mais qui a été transformée avec l'allaitement. Le corps tel que n'importe qui le voit ou même en étant nu face à mon mari n'est pas problématique pour moi. Je sais que mon mari me trouve toujours très belle, désirable, il me le dit. Moi aussi, je ne suis pas perturbée par le reflet que je vois dans le miroir. Après, au niveau de l'appareil génital, qui donc est un des lieux de la sexualité, clairement, c'est compliqué parce que vraiment, ma grossesse a été... j'aime pas dire traumatisante, mais quand vous vous faites opérer deux fois, quand on vous cercle un col de l'utérus, on met un fil au col et on fait comme une bourse, on tire pour refermer. Donc c'est quand même un acte qui est assez violent pour le corps, même s'il est absolument nécessaire. J'ai eu un accouchement par voie basse où mon fils est sorti, on va dire, tout seul, quelques poussées, mais ma fille est deuxième jumeau. Très classiquement, il y a eu une manœuvre qui a consisté à venir la chercher. Donc le gynécologue a introduit la moitié de son bras dans mon vagin, dans mon utérus. Vous voyez ça? À la fois, ça perturbe parce que quand on le voit, c'est vrai que le jour de mon accouchement, j'en ai ri, j'ai dit j'ai l'impression d'être une vache. Mais au niveau du corps, je pense que ça laisse des traces. Et j'ai encore, 19 mois après, un premier réflexe à ce niveau-là qui est de dire oh non, mais c'est bon, laissez-moi tranquille. Vous voyez, il y a un peu de ça. Et ça, c'est quand même très impactant aujourd'hui. Et c'est un point sur lequel je voudrais travailler parce que j'en ai conscience, mais j'arrive pas encore à le surmonter. Voilà. Donc j'y arrive, avec mon mari on travaille dessus, on essaie de s'accorder du temps, d'être plus de se consacrer des temps à soi, parce qu'en fait quand on se rend compte que quand on ne s'occupe pas des enfants, quand on ne travaille pas, eh ben on a juste envie d'être seul, lui et moi, enfin d'avoir ce moment à soi, et le moment à deux vient un petit peu après, en termes d'intimité, je dirais. Donc c'est un sujet sur lequel moi je veux travailler, mais je sais que j'ai à dépasser, effectivement, gérer un traumatisme corporel qui est quand même là. Et en même temps, mon esprit me dit non, mais il faut, faut travailler, c'est important, même s'il n'y a pas de souffrance à date, de frustration parce qu'on en échange, c'est important de rester un couple charnel et de conserver cette intimité qui est quand même précieuse.
Quand vous parlez de tous ces impacts corporels liés à la grossesse, à l'accouchement, toutes ces manœuvres, toutes ces intrusions dans votre corps, est-ce que ça a amené à des douleurs? Là, je pense à quelque chose, beaucoup de mes patientes peuvent évoquer ça, les sécheresses vaginales, des choses comme ça qui vont venir aussi amener de l'appréhension, de l'inquiétude, des douleurs, ce qui vient aussi perturber la sexualité.
Oui, clairement, il y a effectivement l'appréhension, je dirais, psychique, qui est de dire ce côté « laisse-moi tranquille », donc un rapprochement peut être vécu encore comme une intrusion, c'est un peu... Et effectivement, je trouve qu'il y a eu des modifications, tout à fait, au niveau sécrétion, au niveau hormonal, que je ressens, et ça c'est aussi un aspect sur lequel je souhaite un peu challenger aussi mon gynécologue, c'est sur les rapports au début, en tout cas, même si on prend du temps, il y a des préliminaires, de l'envie, etc., peuvent être plus douloureux qu'ils n'étaient avant, clairement. Donc ça, c'est aussi un point sur lequel je m'interroge. Après, pour rien vous cacher, moi, je souffre aussi d'un dérèglement hormonal qui est le syndrome des ovaires polykystiques, donc qui peut aussi générer des problématiques en termes de désir et de sécheresse vaginale, etc. Donc tout ceci fait qu'aujourd'hui, oui, j'ai clairement des interrogations et la grossesse, par tous les bouleversements déjà hormonaux qu'elle induit, et en plus le cas particulier de ma grossesse sur l'aspect médical, on fait qu'aujourd'hui, oui, les rapports sont moins agréables qu'ils n'ont pu l'être. La pénétration. Parce que je dirais que le clitoris, hein, parlons-en, fonctionne très bien, vous voyez. Donc voilà, donc c'est plutôt l'aspect pénétration. Et ça, je sais que par rapport à mon mari, un homme, voilà, ils y prennent énormément de plaisir. Et moi, c'est moins simple, en tout cas, sur le début du rapport.
D'ailleurs, pour votre mari, est-ce que vous avez vu, voilà, comme pour vous, des fluctuations par rapport à son désir? Est-ce que pour lui aussi, il y a eu des changements, voilà, dans sa sexualité, la sexualité qu'il partage avec vous?
Ah oui, nettement. Enfin, je veux dire, ce qui est bien et ce qui est une des forces de notre couple, c'est qu'on parle beaucoup et on se dit le maximum de choses. Et clairement, pendant la grossesse, on va dire sur la phase où il n'y avait pas d'interdiction formelle de rapport, mais qui, nous, était déjà assez angoissante, il me l'a dit. Moi, j'ai pas la tête à ça. Enfin, j'ai pas une envie masculine de pénétration, d'acte sexuel en tant que tel. J'ai juste besoin de tendresse, qu'on soit soudés et qu'on positive au maximum. Donc, oui. Et puis sur la post-naissance de nos enfants, oui, clairement, il le dit. Enfin, on a une fatigue physique qui est quand même intense de par le fait qu'on ait deux bébés, un bébé qui dort mal. On ait un partage des tâches à ce niveau-là qui soit tout à fait équitable. Oui, il me le dit aussi, qu'il subit ces fluctuations de désir. Après, lui, je dirais que l'aspect mécanique, c'est-à-dire qu'il n'a pas de douleur, lui. Donc, il a une problématique en moindre que la mienne. Mais oui, clairement, la fatigue, je trouve, tue en fait le désir sexuel. Et puis lui aussi, il le dit. Moi, mon premier réflexe, une fois qu'on s'est occupé des enfants, qu'on a travaillé, qu'on a fait quelques tâches domestiques, etc., il dit, c'est plus de me retrouver avec moi-même dans ma bulle plutôt que d'avoir ce côté. Allez, petit câlin. Mais en même temps, il est moteur aussi. Donc c'est aussi pour ça que moi, j'ai envie moi-même de travailler et de dépasser certaines de mes appréhensions, parce que il me dit, j'ai beaucoup de désirs vis-à-vis de toi, etc. Mais on est assez en phase, et je pense qu'il n'y a pas que les femmes qui sont impactées par l'environnement quant à leur sexualité.
Merci beaucoup, Judith. Je vous propose maintenant qu'on rejoigne dans le salon d'à côté notre experte, Catherine Oberlé. Bonjour Catherine Oberlé.
Bonjour.
Vous êtes gestalt-thérapeute, sexothérapeute, coach et conférencière. Vous avez créé l'Académie du Féminin, un réseau et une plateforme de formation en ligne qui aide les femmes à exprimer leur potentiel, leur talent et leur désir sous toutes ses formes. Et vous êtes l'autrice du livre « Domptez vos peurs et libérez votre féminin » aux éditions Le Duc. Dans mon cabinet, certains couples, certaines femmes que j'accompagne dans leur parentalité expriment une insatisfaction quant à leur vie sexuelle depuis qu'ils sont devenus parents, et parfois même dès la grossesse. Certaines études mettent en avant cette baisse de la satisfaction conjugale s'accompagne fréquemment de conflits entre les partenaires. Il y a donc un réel enjeu à prendre soin de son couple, de sa sexualité durant cette période de vie. On le dit souvent dans parentalité, devenir parent est une réelle épreuve émotionnelle, affective, qui impose au couple et à chacun de ses membres des réaménagements. Donc comment retrouver et nourrir une vie sexuelle satisfaisante après l'arrivée d'un enfant? Voilà une question complexe à laquelle on va essayer de réfléchir ensemble aujourd'hui.
Oui, il y aurait plein de choses à dire. Hein. Déjà avec le joli témoignage qu'on vient d'entendre, là, c'est vrai que ça résonne fort. Et je pense que ça va résonner pour beaucoup de femmes et pour beaucoup de couples. Hein. C'est tellement vrai. Tout ça.
Tout d'abord, Catherine, qu'est-ce que c'est que la sexualité ? Judith nous a parlé de rapport avec pénétration, de la tendresse, des baisers. Voilà, c'est vrai que souvent, il y a cette représentation que la sexualité, c'est le rapport sexuel avec pénétration. Voilà, qu'est-ce qu'il en est ?
Oui, alors c'est vrai qu'on l'a entendu plusieurs fois là, durant ce témoignage, comme s'il y avait la sexualité avec pénétration et puis qu'il y avait autre chose. Mais la sexualité humaine, en fait, c'est vrai que c'est beaucoup plus large que ça. Hein. C'est vraiment déjà pour moi, la tendresse ou le contact avec l'autre fait partie de la sexualité. Si on écoute les enfants, on voit que les enfants vont parler de sexe. Ils vont dire que les parents, que les adultes font du sexe. Alors c'est vrai qu'on imagine bien les deux sexes qui s'emboîtent. Hein. Mais en fait, la sexualité, c'est plus que ça. C'est tout le corps qui peut être zone érogène. Donc c'est vraiment la rencontre en fait de deux corps, hein, de deux ou plusieurs corps, mais là on va être sur le schéma classique, hein, de deux corps qui se rencontrent, donc de deux individus qui se rencontrent et qui vont pendant un temps se mélanger non seulement en termes de pénétration, mais mélanger aussi leurs énergies. C'est là qu'on voit que c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, parce qu'on n'est pas seulement limité au corps. Hein. D'ailleurs, on le sent quand on est dans cet échange avec une autre personne, qu'il y a quelque chose au niveau des fluides aussi qui se passe, hein, puisqu'on se mélange au niveau des fluides, que ce soit au niveau de la bouche, au niveau du sexe, au niveau de la transpiration. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans ce mélange, dans cette union corporelle et énergétique. Donc pour moi, la sexualité, si je devais la résumer, en fait, c'est une rencontre déjà de deux personnes, de deux individus et qui vont se mélanger en fait. Mmh. Et à partir de ce mélange, de cette union, eh bien, va émerger, dans le meilleur des cas et de ce qu'on attend en général, c'est du plaisir. Donc ça va être à chacun de trouver de quelle manière eh bien, je vais pouvoir trouver ou me connecter sur le plaisir, sur mon plaisir d'abord, parce que c'est par là que ça passe quand même, hein. Et puis après, eh bien, partager ce plaisir-là avec l'autre. Parce que l'erreur souvent, c'est d'attendre que le plaisir, que mon plaisir vienne de l'autre. Et en fait, non, c'est déjà avoir une bonne connaissance de soi, avoir une bonne connaissance de comment je fonctionne et comment je peux atteindre mon plaisir pour en être responsable et ne plus attendre que ça vienne de l'autre.
Ça, Judith, voilà, cette connaissance de votre corps, en tout cas, moi, je suis souvent surprise, hein, que certaines femmes que j'accompagne ne savent pas du tout de quoi est composé leur sexe. Judith, est-ce que voilà, c'est des choses que vous savez, avec lesquelles vous êtes à l'aise, confortable ou...
Oui, je pense quand même avoir une relativement bonne connaissance de ce qui me fait plaisir, ce qui me fait pas, de certaines positions que j'apprécie ou pas, ou qui me sont égales. Enfin, oui, quand même. Moi, j'entends hein, votre notion de le côté attendre que le plaisir vienne de l'autre. Moi, j'ai pu, dans d'autres relations ou même dans celle-ci, parfois, avoir envie d'abord de faire plaisir. Oui. Avant de me faire plaisir à moi ou à minima d'être au moins sur un... C'est vrai que j'aime pas jouir si mon partenaire n'a pas joué. C'est assez bizarre. Il faut... Et en même temps, des fois, je me dis « Ah, chouette, c'est sympa ». Et à la rigueur, se le dire aussi. Parce que finalement, on n'est pas toujours au diapason, à la seconde près, là-dedans. Et puis le fait de savoir que l'autre a joui peut donner aussi, enfin, peut déclencher la jouissance chez l'autre. Enfin, voilà, je pense qu'en fait, il faut rester dans l'échange. Enfin, moi, c'est en tout cas la manière dont je le vis. Après, se connaître, c'est pas si simple, en général, et sexuellement, c'est encore plus difficile. Et je pense que ça peut évoluer au fil de la vie.
Oui, voilà. Et puis j'aurais envie de compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, que la sexualité, c'est la rencontre de deux personnes, mais c'est aussi la rencontre de soi à soi. Et il ne faut pas oublier que la masturbation fait partie de la sexualité. Déjà, se masturber, c'est avoir une sexualité. Parce que moi, justement, il y a souvent des femmes qui viennent me voir, qui me disent je suis toute seule en ce moment, je ne suis pas en couple, donc je n'ai pas de sexualité. Et à la question, est-ce que vous vous masturbez, la réponse est oui. Et bien, c'est donc qu'il y a une sexualité. Mais après, l'autre partie, ça peut être aussi que y a des femmes encore qui n'osent pas se masturber ou pour lesquelles c'est un sujet tabou. Alors vous avez dit très simplement, vous avez parlé du clitoris, ben bravo, parce que c'est vrai que rien que le mot parfois peut être encore tabou. Hein, même si aujourd'hui, les langues se délient, on commence à parler un petit peu plus de ces sujets, mais c'est important. Et c'est important, par exemple, aussi, qu'une femme sache comment est fait son clitoris, où il se situe. Il ne s'agit pas seulement de connaître le mot et de savoir que j'ai un clitoris, mais c'est même aller prendre un miroir et regarder où il est exactement mon clitoris, comment il est fait. Et voilà, parce que pour trop de femmes, encore aujourd'hui, les femmes n'ont jamais osé se regarder. Parfois, le partenaire les connaît mieux qu'elles-mêmes. C'est dingue, ça, quand même. Donc, on devrait apprendre déjà à toutes les petites filles d'oser se regarder.
On en a parlé, ça, dans un épisode sur la sexualité des enfants. voilà, de l'importance, oui. En effet. Et puis, il y a l'importance des mots, voilà, le terme, le mot vulve aussi.
Oui.
Voilà, et souvent encore, voilà, c'est tabou.
Oui.
Voilà.
Oui, pas seulement zézette ou je ne sais pas quel mot, enfin, ou chatte ou machin. C'est utiliser les vrais mots.
Tout à fait. Vous parliez de cette question du plaisir. Alors souvent, il y a la sexualité plaisir, puis la sexualité reproductive. Ça vous fait réagir,
oui,
quand je dis ça, Catherine ?
Ça fait sourire. Oui, parce que on vient de loin, même nous les femmes, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que la partie reproduction, bien sûr, est importante, hein, pour nous les êtres humains. Mais maintenant, on voit bien que ça prend une autre dimension et que le plaisir, il y a toute une revendication de la part des femmes aussi pour avoir accès au plaisir. Et en même temps, moi, je vois qu'il y a encore beaucoup de femmes aussi qui n'arrivent pas. Alors, on parle souvent de lâcher prise, hein, mais ça veut tout dire et rien dire. Mais c'est vrai que souvent, le plaisir peut faire peur aussi à certaines femmes. Donc, c'est comment je peux aller dans cette zone de la sexualité en étant en sécurité et en étant dans une forme de lâcher prise qui va permettre de laisser émerger mon plaisir. Mais pour ça, il ne faut pas oublier qu'il y a un facteur important quand même. Et ça, c'était très joli quand je vous écoutais, Judith. Vous donnez l'impression d'être dans un couple qui est sain et où il y a de la communication et dans lequel vous vous sentez en sécurité. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans un couple. Hein. Et pour une femme, c'est de se sentir respectée, de se sentir en sécurité. Et c'est à partir de là que le plaisir va pouvoir émerger. Parce que la femme a un besoin viscéral de se sentir en sécurité pour accéder à cette zone du plaisir. Parce que quand on accède à cette zone, parfois on peut se sentir vulnérable. On a besoin de sentir qu'on sera accueilli aussi. Il n'est pas rare aussi pour certaines femmes, hein, quand elles sont dans cette zone de plaisir, de pleurer, d'avoir une émotion très forte de pleurer. Parce que, voilà, au niveau émotionnel, c'est fort, hein, ce qui se passe. Donc, c'est aussi être suffisamment en sécurité pour laisser venir cette émotion, ces pleurs, que ce soit accueilli par le conjoint, qui ait aussi toute cette tendresse dont vous avez parlé, qui est vraiment un pilier important du couple aussi. Hein.
Moi, j'entends certains de mes patients dire au moment où on a décidé d'avoir un enfant, déjà à ce moment-là, la sexualité est perturbée. Soit il y a des pannes chez le partenaire, en tout cas, il y a quelque chose où soit ça augmente la libido, soit au contraire, ça vient la freiner. Comme si ce passage-là d'une sexualité finalement qui ne serait que plaisir à une sexualité qui aurait des conséquences, l'arrivée d'un enfant, déjà là, il y a quelque chose qui peut se jouer et qui arrive, qui est assez fréquent, alors qui souvent se résolve rapidement, mais montre bien qu'il y a quelque chose dans ce passage qui n'est pas toujours simple.
Oui, parce qu'à partir du moment où on pose un objectif, c'est comme s'il y avait une petite voix qui nous disait « il faut être efficace, ce que tu fais là, il faut que ça ait un sens ». Ça va peut-être nous limiter un petit peu plus dans le côté léger qu'il peut y avoir dans la sexualité. Mais en même temps, il faut peut-être arrêter de penser que la sexualité n'est que légèreté, que la sexualité n'est que désir qui arrive comme ça, que la libido, elle est là ou elle n'est pas là. En fait, dans un couple, ce que moi j'entends souvent et ce qui est souvent dit par tous les sexologues ou sexothérapeutes, c'est qu'il faut arrêter de croire que c'est quelque chose de toujours naturel et spontané. La sexualité dans le couple, parfois, il faut se donner des rendez-vous, il faut se fixer des rendez-vous, parce que sinon, justement, on fait passer tout le reste d'abord, et puis on est fatigué, et puis il y a les enfants, et puis il y a le boulot, puis il y a ceci, puis il y a cela. Donc moi, j'aime bien l'image du jardin qu'il faut cultiver. Un jardin, si vous aimez les belles fleurs, si vous ne vous en occupez pas, les fleurs, elles vont faner, ou elles ne vont pas repousser l'année d'après, et puis ça va flétrir, et puis votre jardin, il va être en friche. La sexualité, c'est pareil. C'est quelle énergie j'y mets, comment je m'en occupe. Et puis, il y a des fois où c'est là spontanément et d'autres fois non. Et on aura peut-être besoin de prendre plus de temps pour se caresser, se faire des massages, qu'il y ait de la tendresse d'abord. Et puis parfois, il faut aussi s'autoriser à ce qu'il n'y ait que de la tendresse et peut-être pas de
passage à l'acte de pénétration. En fait, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais il y a tellement d'autres manières aussi de vivre sa sexualité qu'il faut arrêter. Moi, je pense que voilà, mettre un objectif trop précis ou avec une date limite, ben c'est vrai que ça peut être, ça peut amener des difficultés.
En tout cas, là, vous nous dites bien que la sexualité, c'est un apprentissage, voilà, qu'il n'y a rien qui vient comme ça. La sexualité, le désir, voilà, c'est quelque chose qui se nourrit. Et en effet, c'est pas soit c'est là, soit c'est pas là. Non, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on est acteur de ça, finalement.
Oui, vous avez utilisé le terme de « ça se nourrit ». Le désir se nourrit, c'est vrai, parce que souvent, les personnes viennent nous consulter en disant « mais j'ai plus de désir, j'ai plus de libido ». Mais oui, parce que parfois, c'est vrai qu'il faut créer un environnement dans lequel ça va pouvoir émerger, dans lequel ça va pouvoir se libérer. Si on est toujours dans un environnement, par exemple, anxiogène, mais le désir, il ne va pas avoir la place pour émerger. Si on est toujours dans un environnement où on sent, ou dans un couple où on sent que l'autre met beaucoup de pression, qu'il ne... c'est vrai que je vais parler en tant que femme, hein, mais c'est, en tant que femme, ben, parfois on a besoin de se sentir désirée, par exemple. Hein, et c'est vrai qu'on... notre mécanique n'est pas tout à fait la même que celle des hommes. Autant pour un homme, parfois, je vais être un peu dans une généralité, mais c'est pas toujours vrai non plus, mais parfois l'homme, son désir va être déjà plus apparent, on va peut-être je veux dire, son érection va peut-être se faire plus facilement ou plus de manière plus spontanée, là où nous aurons besoin de plus de temps. Et c'est vrai que c'est là où les caresses sont importantes aussi, hein, c'est que, et d'accepter que ben, notre rythme en tant que femme peut être parfois un petit peu plus long. Ça ne veut pas dire que rien ne viendra, hein, mais c'est se donner des autorisations. Et même dans le couple, parfois se dire, ok chérie, là je ne sais pas où j'en suis, là tout de suite je n'en ai pas vraiment envie, mais si tu veux, bon, on se caresse ou on se fait un petit massage et puis on verra ce qui émerge, s'il y a quelque chose qui vient ou pas. Et c'est pas grave, parce que la sexualité, c'est ça aussi, hein. Et dans ce cycle de la sexualité saine, je dirais, c'est aussi de voir que parfois il y a quelque chose qui monte, comme ça le désir, il peut monter un petit peu, il peut venir, et puis hop, il se fatigue rapidement, et puis ça redescend, et c'est accepter d'être dans cet état-là, et que ça n'ira pas plus loin aujourd'hui, et c'est ok. Faut arrêter de croire aussi que dans un couple, avoir une sexualité épanouissante ou normale, entre guillemets, c'est faire l'amour tous les jours. Non, c'est pas ça. C'est faire l'amour au rythme qui nous convient. Et ça, c'est vraiment important. Et ça peut être, pour certains, ça sera une fois par semaine, pour d'autres, une fois par mois. Trouver votre rythme, le rythme dans lequel les deux personnes vont se sentir bien. Mm-hmm. Et vraiment sortir des clichés que peuvent nous donner tous les magazines ou tout ce qu'on peut entendre.
Je pense que c'est vraiment essentiel parce que ça peut être un peu culpabilisant. Moi, ça fait effectivement plusieurs années quand même. Alors là, on est dans un contexte aussi particulier, post-grossesse, mais où moi, clairement, moi, personnellement, et un petit peu mon mari, même si des fois, j'ai toujours à me dire est-ce qu'il s'adapte ou pas, mais je pense pas complètement. Où j'ai l'impression de pas être normal ou dans les standards, parce qu'effectivement, moi, je suis dans la recherche vraiment de quelque chose de très qualitatif, à une fréquence qui est extrêmement variable. Ça peut être souvent, fréquemment, espacé. Moi, je serais... Voilà, et à chaque fois, je me dis, oh là là... c'est pas tous les jours, c'est pas toute la semaine, c'est pas normal. Et je trouve qu'on a été un peu baignés, et ma génération, celle d'avant, et peut-être encore celle d'aujourd'hui, enfin, j'espère pas les enfants d'aujourd'hui, mais dans ce côté normal, voilà. Et la sexualité, elle échappe pas à ça, en fait. Pour être normal, il faut être un peu mince, un peu grand, enfin. Et je trouve que la sexualité, voilà, pâtit de ça. Et ça peut être un peu culpabilisant. Et moi, je sais que je travaille avec ça en me disant, mais en fait, on s'en fiche. Enfin, l'essentiel, est-ce que moi, ça me convient? Est-ce que ça me convient à mon partenaire? Voilà. Et je pense que c'est essentiel ce que vous dites, parce que c'est fondamental, en fait. Parce que...
Oui, il y a des couples très heureux et qui n'ont pas des fréquences très fréquentes.
Et à contrario, des couples qui ont besoin vraiment de cette... Voilà, c'est comme ça, et c'est très bien, et tant que ça leur convient.
Judith, vous nous avez bien dit, alors vous avez eu traversé des événements vraiment difficiles dans votre grossesse. Voilà, il y a eu un enjeu vital pour vos enfants. Quelles sont les répercussions de la grossesse sur la sexualité, Catherine?
Bien là, on est sur en plus un cas de figure qui est particulier parce que les jumeaux, voilà, c'est vrai que c'est particulier.
Hein. Tout à fait.
On sait bien très souvent, voilà, les cas de divorce sont le taux est beaucoup plus élevé après la naissance de jumeaux qu'après la naissance d'un enfant unique. Donc c'est vrai, il faut être doublement attentif à ce qui se passe dans le couple parce que le couple est mis à rude épreuve. Donc c'est parce que tout est x2, c'est vrai. Et puis qu'en plus, ben, comme on l'a vu avec Judith, c'est que ben, toute la problématique qu'il y a autour de la grossesse et de l'accouchement. Moi, j'ai la sensation qu'il faut beaucoup de douceur après ça, hein, après une expérience de ce type-là.
Donc, oui, là, ça me fait penser aussi à tous les couples que j'accompagne en parcours de PMA, où là aussi, il y a beaucoup d'intrusions médicales, où la sexualité peut être aussi planifiée, etc. Et comment remettre de la douceur, justement, et de l'intimité, et de la sécurité.
C'est vraiment s'écouter. C'est vraiment être à l'écoute de mes besoins, de ce que mon corps me dit, de ce que mon corps exprime, parce qu'on le voit bien avec ce que vous avez partagé. Hein, le corps a été mis à rude épreuve et a eu des intrusions. Donc, c'est comment... Parfois, ça prend du temps aussi. Il faut être OK avec ça. Notre processus de... J'appelle ça un processus de guérison, hein, mais c'est... voilà, processus... On ne sera jamais plus comme avant, mais en même temps, c'est comment je peux vivre aussi des belles choses et comment je peux vivre avec ce que je suis aujourd'hui et ce que mon corps a traversé et dire merci à son corps déjà aussi parce que c'est vrai que c'est assez incroyable tout ce que les femmes sont capables de faire et les expériences qu'elles vivent avec les accouchements, avec le fait de qu'il y ait un enfant comme ça qui grandisse en nous, c'est incroyable. Donc remercier ce corps déjà, je pense que c'est essentiel. Et puis oui, lui amener de la douceur et puis être OK avec le temps. Oui, il faut du temps pour retrouver peut-être une forme d'équilibre et c'est OK avec ça, pas être pressé.
Oui, donc normal que la libido soit un peu malmenée pendant la grossesse,
exactement.
Que ça soit plus difficile en fin de grossesse aussi de trouver des positions voilà, qui soient satisfaisantes. Il y a certains hommes aussi qui, voilà, l'enfant se faisant de plus en plus présent, voilà aussi où ça peut être l'impression d'être à trois et plus à deux, ce qui peut être un peu compliqué parfois.
Ben oui, ça change complètement le schéma familial. Hein. C'est oui, on n'est plus deux, on est trois. Donc cette troisième place, ce troisième personnage qui s'invite là, c'est aussi ben, comment au niveau énergétique, hein, ce qui se passe aussi. Puis c'est au niveau même de la lignée familiale. Hein, donc c'est important cette place qui est occupée et faire de la place à l'enfant aussi. Et puis lui donner la bonne place, et lui dire qu'il est bienvenu aussi. Donc oui, ça fait bouger toutes les lignes. Donc, et puis on voit bien souvent pendant les grossesses aussi, il y a des traumatismes qui peuvent revenir, il y a des histoires familiales, et c'est pas anodin du tout. Hein.
Et puis ce que vous nous disiez là, c'est tous ces changements corporels qui amènent des changements de la représentation de soi, l'image de soi, et ça aussi dans le postpartum, vous nous le disiez Judith, et voilà, de se donner du temps aussi pour se réapproprier son image, son corps.
Oui, puis ce qui peut être intéressant peut-être aussi, c'est bien d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs et comment on peut découvrir une autre forme de sexualité, peut-être aussi. Hein, où, c'est vrai que moi, je m'intéresse beaucoup aussi à ce qui est tantra, tout ce qui vient d'Orient, tantra, Tao, mais surtout le tantra, en fait, où on est vraiment dans une découverte de tout ce corps, de toute l'énergie qui est contenue dans notre corps, comment on peut la partager avec l'autre et comment on peut ressentir du plaisir, justement, sans qu'il y ait pénétration. Mais là, on découvre que c'est tout notre corps qui est une zone, qui peut être une zone érogène et de comment on peut aller activer cette énergie-là pour prendre du plaisir seul ou avec son partenaire sans qu'il y ait pénétration. Par exemple, si ça peut être vraiment intéressant. Et puis moi, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est, on va appeler ça des rituels, en vous écoutant, Judith, moi, ce qui me venait, le petit rituel hein, qui pourrait se faire soit vous seul, soit avec votre compagnon, votre mari, c'est de poser une main sur votre sexe, de parler à votre sexe, ou de moi, je propose souvent aussi à mes clientes, ou de poser la main sur le ventre, et puis d'avoir une discussion aussi avec cette partie de son corps, et puis de remercier aussi cette partie-là pour tout le travail, entre guillemets, qui a été fait, hein, parce que le ventre, ben, c'est quoi ? C'est l'utérus, c'est quand même une partie des organes féminins importants. Donc voilà, c'est d'être dans ce contact-là. Hein, donc il y a vraiment... Il y a la partie, voilà, le faire seul, de soi à soi, et puis le faire avec son compagnon. Choses intéressantes.
Du coup, on en revient à la question de la masturbation. C'est quelque chose qui est important, justement, pour nourrir le désir.
Ça peut. Mmh. Ce qui peut être intéressant aussi, je vais pousser un petit peu plus loin, hein, au niveau de la masturbation même, c'est que parfois, s'il ne peut pas y avoir de pénétration, mais pourrait très bien y avoir de la masturbation des deux. Je me masturbe devant mon partenaire et lui se masturbe devant moi ou avec moi ou à côté. Et puis, ça peut être, il va y avoir là un échange énergétique intéressant. Hein, et c'est comment, ben, regarde-moi, mon plaisir, je te le donne et je le partage avec toi. Donc, mais ça, là aussi, voilà, c'est un peu tabou. Ça.
C'est toujours sortir de la normalité.
Ben voilà.
Ouais, non, mais je suis très...
C'est osé, moi.
Je suis complètement d'accord avec vous, effectivement. Ça peut être tout à fait chose de très appréciable et des deux côtés, effectivement. Oui. Ouais.
Mais là aussi, voilà, c'est osé sortir un peu des schémas classiques. Moi, beaucoup de femmes qui me disent « Quoi, me masturber devant lui ?»« Mais jamais !» Ou « Me masturber en étant pénétrée en même temps ?»« Mais non, jamais, pourquoi ?» Alors que si, ben ça vient enrichir, en fait, la sexualité.
Souvent aussi, il y a des fausses croyances ou des peurs liées à la sexualité pendant la grossesse. Est-ce que c'est des choses, alors avant d'être dans votre situation un peu particulière, Judith, est-ce que c'est des choses que vous pouviez avoir ?
Non, je pense pas, parce que effectivement, je savais un petit peu que un rapport avec pénétration, ça n'allait pas toucher le bébé, ça n'allait pas faire rompre la poche des os, etc. Non, moi, j'avais pas cette crainte-là. Après, en réalité, moi, comme je vous l'ai indiqué, au bout de quelques semaines de grossesse, on a senti que ça allait être compliqué. Donc, j'ai même pas eu le temps de m'interroger. En fait, ça a été mis. Voilà, ça a été mis un petit peu de côté. Après, non, je pense pas que j'avais de fausses croyances. Après, si, moi, j'avais entendu beaucoup que la libido était quasiment nulle au premier trimestre et qu'il pouvait y avoir une explosion au deuxième, au troisième trimestre, que j'ai personnellement pas ressenti, mais parce qu'encore une fois, je pense que j'étais pas dans l'état d'esprit. Mais c'est vrai que je m'étais questionnée. Je m'étais dit, ah, est-ce qu'au deuxième trimestre, ça va, il va y avoir effectivement un regain de désir ou etc. Que j'ai personnellement pas trop... Je sais même plus. En fait,
non, ben là, voilà, c'est très variable.
Voilà, donc il y a effectivement des sortes de clichés, de fausses croyances, mais je m'en étais déjà un petit peu départie. Voilà.
En tout cas, l'importance va de pouvoir être rassurée, alors quand vous dites va faire peur au bébé, de la peur qu'il y ait des infections ou de provoquer des fausses couches, ou vous y ayez eu une situation médicale particulière.
Non, mais c'est sûr que dans la majorité... avec pénétration, j'aurais contracté, mais comme bouger me faisait contracter, etc. Donc là, oui, dans ce cas de figure-là. Mais,
Il n'y a aucun risque. Et puis, c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont très demandeuses presque jusqu'au terme. Hein, et voilà, donc pourquoi pas. Tout est possible. C'est vraiment ce qui est important. Hein. Il n'y a pas une règle pour tout le monde. C'est vraiment à chacune de se connaître, à chacune de s'écouter et d'avoir son propre mode d'emploi, j'ai envie de dire. Hein. Et ça, on arrive à l'acquérir en s'écoutant, en mettant de la conscience sur ce que nous vivons, en fait. Hein.
Le postpartum immédiat, hein, c'est une période donc particulièrement difficile dans la vie d'une femme, et une période où le couple conjugal, de fait, est relayé. Voilà, le couple parental va prendre plus de place du fait des besoins du bébé, et ça, c'est très important. Donc, un certain temps, voilà, souvent, la sexualité est mise un petit peu de côté. Vous nous disiez aussi, Judith, voilà, que en fonction de la grossesse, de comment s'est passé l'accouchement, voilà, il peut y avoir aussi des questions physiques. qui vont amener des douleurs. Ou,
Et puis l'épisiotomie aussi, hein, parlons-en. Ouais, c'est vrai que y a tout un mouvement actuellement justement pour tenter d'éviter au maximum l'épisiotomie parce que c'est pas anodin comme geste effectivement. Et puis c'est un geste traumatisant pour le corps, traumatisant pour les femmes et très souvent bien le retour à la sexualité, à la pénétration peut être un petit peu inquiétant pour la femme qui a vécu une épisiotomie parce que c'est vrai que là au niveau de l'imaginaire, est-ce que ça va se déchirer? Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va me faire mal? Qu'est-ce qui va se passer? Je pense que ça serait bien qu'on arrive à éviter de plus en plus. Quoi.
Bien sûr. Et puis, est-ce que vous nous disiez aussi, Judith, les sécheresses vaginales, les saignements, toutes les difficultés aussi urinaires, il y a toutes ces douleurs-là post-accouchement, évidemment, vont mettre en tout cas la sexualité avec pénétration de côté, mais il peut y avoir une sexualité, comme vous nous disiez, Catherine, beaucoup plus large, avec la tendresse. Le corps à corps.
Oui. Et puis, c'est vrai qu'en vous écoutant, je pense aussi à tout le travail qui est fait par certaines thérapeutes actuellement sur la zone du périnée. Mmh. Et c'est vrai que dans l'exercice que je proposais tout à l'heure, de mettre la main simplement sur son sexe, et ben ça peut être descendre un petit peu, mettre la main sur le périnée et vraiment apporter de la douceur et de la chaleur au périnée. Parce que pour les Indiens, c'est le premier chakra, c'est notre ancrage aussi à la terre. C'est de là que vient aussi notre énergie, c'est de là que vient notre énergie de vie. Hein. Donc c'est être en paix avec cette partie-là, avec le périnée. C'est, on dit qu'il y a des mémoires ancestrales qui sont contenues là aussi. Donc oui, c'est pas anodin, cet endroit-là du périnée.
D'ailleurs, nous disiez, Judith, que c'est au moment où vous avez fait votre rééducation qu'il y a aussi quelque chose, peut-être, d'une réappropriation de votre corps, où il y a de la sexualité, en tout cas... qui est revenu.
Oui, moi je pense qu'il y avait plusieurs facteurs aussi, parce que je le disais, c'est un moment où ça a été un tout petit peu plus cool avec les enfants, il y avait le confinement, donc bon, pas. Mais oui, je pense, parce que quelque part, c'est ce que vous disiez fort justement, Catherine, c'est que reprendre conscience de cette zone du corps, et donc quand on travaille sur la rééducation du périnée, forcément on y réfléchit, on vous dit ce que c'est, une sorte de hamac, parce que pareil, là aussi il y a plein de fausses croyances, de méconnaissances sur le périnée, donc oui, peut-être que inconsciemment en tout cas, ça a redonné un peu de conscience et d'activité à cette partie-là. Après, moi ça fait beaucoup de sens et ça résonne beaucoup ce que vous dites, de poser la main, se réapproprier, etc. Parce que moi je pense que chez moi, il y a aussi ce côté de, hormis les intrusions, les interventions, etc., de ce côté, ça ne marchait pas correctement. Quelque part, moi, j'ai un utérus qui contractait tout le temps. Et moi, je me demande s'il n'y a pas une part de ça aussi, de me dire que cette zone-là chez moi, sur la partie en tout cas reproductive, parce que j'ai aussi un syndrome des ovaires polykystiques, tout ça. Pour moi, cette zone-là, c'est un peu... je pense, inconsciemment ou consciemment maintenant, une zone qui chez moi dysfonctionne. Donc ce que je ne veux pas, c'est que, sur la capacité reproductive et avoir des enfants, c'est pas aussi simple que pour d'autres femmes chez moi. Mais parfois, je m'interroge sur le fait que, est-ce que quelque part, du coup, psychologiquement, pour moi, c'est pas devenu un dysfonctionnement surtout, y compris la sexualité. Vous voyez, c'est vraiment, c'est des questions qui me viennent là récemment et puis encore plus en vous écoutant parce que moi, ça me touche de me dire mettre la main et remercier. C'est quelque chose qui va me toucher, qui va générer une émotion chez moi. Et donc, je me dis, il y a quand même quelque chose par rapport à ça. Est-ce que finalement, ça chez moi, depuis l'adolescence, avec mon syndrome des ovaires polykystiques, de me dire que ça ne marche pas, en fait. Donc c'est
oui, en
un
tout
peu
cas,
de bienveillance, en tout
oui.
cas.
Et de réparer, cette idée-là. Voilà. Vous nous avez dit, Judith, que la reprise de la sexualité, vous aviez une certaine appréhension. Alors moi, je dis souvent, c'est à nouveau une première fois, le premier rapport après un accouchement. Catherine, quel conseil vous pourriez donner au couple pour préparer peut-être cette reprise de la sexualité?
Bien, je trouve que Judith en a bien parlé là aussi tout à l'heure. Hein. c'est comme s'il y avait de l'attention qui était posée, de la douceur, de la redécouverte. Oui, parce que c'est une nouvelle première fois, c'est vrai. Donc l'accueillir comme ça et le vivre comme ça, parce que c'est vrai que le corps n'est plus tout à fait le même. Peut-être que les réactions ne seront plus tout à fait les mêmes aussi. Donc c'est s'accueillir dans cette différence-là, accueillir... Bah, ce qui va émerger, mais le faire avec beaucoup de bienveillance, c'est vrai, et puis de la communication dans le couple, hein, communication avec l'autre. Si ça fait mal, bah, le dire. Savoir dire aussi de quoi on a envie, de quoi on n'a pas envie. Qu'il y ait une co-construction. Préparer le terrain, c'est important quand même, parce que faut pas oublier que très souvent, on a besoin, on va dire, entre 15 et 20 minutes de ce que je vais appeler la préparation, pour que notre corps soit prêt à accueillir le sexe de l'homme en nous. Donc, pour qu'il y ait suffisamment de lubrification, pour que tout le système hormonal se soit déclenché, mis en place. Donc, il faut vraiment accepter qu'on a besoin de temps. C'est à nous, d'abord, nous, femmes, de l'accepter. Ok, ben je suis comme ça, je fonctionne comme ça en tant que femme. Et de pouvoir le dire à l'autre. D'arrêter de se dire, bon, ok, non, je vais pas lui dire, il est pressé, je vais laisser faire. Et puis hop, on va avoir mal, et puis hop, on va pas avoir de plaisir. Donc c'est non, c'est aller. Et c'est là où j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que notre plaisir est important aussi. Hein. Donc c'est oser dire à l'autre, ben non, pas tout de suite. Là, j'ai encore besoin que tu me caresses ou que tu me masses un peu ou de préparer ce terrain, parce qu'après je vais pouvoir t'accueillir et après ça sera beaucoup mieux.
Là, j'entends toutes mes patientes qui me disent, bon, bah, ok, mais là, j'ai du lait qui coule, ça me gêne, ou il y a bébé qui est à côté, bébé qui va se mettre à pleurer, ou les enfants un peu plus grands qui rentrent dans la chambre des parents. Ce temps, quand on est parent, il est aussi compté. Voilà, comment aménager finalement cet espace d'intimité?
Déjà, fermer la porte à clé. Ça, c'est la première chose importante et que on risque d'oublier, mais c'est important justement pour qu'il y ait personne qui rentre. Et puis l'autre chose, si bébé est petit, s'il n'y a pas d'autres moyens, ben, ça peut être prendre une nounou pour le samedi soir et puis s'octroyer un temps ensemble ou amener bébé chez les beaux-parents, mais arriver à se réserver vraiment un temps où on ne va pas être dérangé. Et où on va pouvoir avoir une parenthèse un petit peu enchantée, où le couple va vraiment se rencontrer sans qu'il y ait d'enfants dans les pattes.
En tout cas, ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de parents et de bébés qui dorment avec leurs parents, notamment les premiers mois de vie. Et souvent, j'entends cette question, mais est-ce que le bébé, il en perçoit quelque chose? Est-ce que ça pourrait être dangereux pour lui? Est-ce que c'est bien ou pas bien, finalement, d'avoir des rapports sexuels en présence de son bébé qui est à côté?
Alors ça, c'est un vaste sujet et il n'y a pas de réponse unique. Je pense que c'est vraiment à chaque couple de ressentir ce que ça leur fait vivre à eux, de faire l'amour avec le bébé qui est à côté. C'est une question à se poser, c'est voir
qu'est-ce qui est confortable pour chacun.
J'ai pas de conseil unique à donner. C'est vraiment en fonction de chacun.
Si on est ok avec ça, c'est ok.
Voilà. C'est parce qu'il s'agit pas encore de mettre une couche de culpabilité ou je pense que
d'injonction encore supplémentaire.
Chacun fait comme il peut du mieux possible, mais en même temps il faut poser une limite à ça aussi, hein. C'est que on va pas le faire avec un enfant qui a 2 ans,
bien sûr. Judith, du coup, nous disait, voilà, nous parlait de ses fluctuations, de sa libido. Alors, on parlait tout à l'heure de nourrir la libido. Comment on peut la nourrir?
Alors, ça passe par tout ce qui est ma présence à l'autre, donc le massage, le toucher, le contact. Mais après, quand ça suffit pas, ben, c'est aussi par des lectures, c'est par des films, c'est par des... Qu'est-ce qui éveille chez vous votre libido? Est-ce que ça va être du visuel, de l'auditif, du sensoriel, de l'olfactif, c'est vraiment aller chercher, aller trouver ce qui fonctionne pour vous. Et puis, sortir aussi des cases
et du c'est bien, c'est pas bien, ça se fait pas. Non, bah, si ça marche pour moi, bah, je le fais.
Oui, donc ça peut être des images érotiques, de la lecture érotique. Il existe même des podcasts érotiques.
Ah oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Je veux dire, à partir du moment où vous sentez que ça vous fait vibrer, que ça vous réveille, eh ben, c'est bon, hein. Bien sûr, ne pas s'en priver. Parce qu'il faut arrêter d'être un peu dans cette pensée magique de « ça va venir tout seul », quoi. Mmh. Ou « ça va revenir tout seul ». Non, parfois, il faut aider, il faut soutenir un peu le mouvement. Donc, il faut aller chercher.
Oui, puis vous parliez, c'est un conseil que je donne souvent tout à l'heure, le fait de se donner rendez-vous, alors pour passer du temps ensemble, pour se masser, pour sortir aussi de cette idée de c'est spontané, c'est naturel, ça doit arriver comme ça en claquant des doigts. Non, voilà, ça s'entretient, le fait de se donner rendez-vous. Alors, on sait qu'on va avoir de la sexualité avec ou sans pénétration, voilà, qu'il n'y a pas forcément se mettre la pression pour une pénétration, mais en tout cas, voilà, le fait de se donner rendez-vous, c'est quelque chose aussi qui peut nourrir le désir.
Oui, alors, moi, j'entends souvent les femmes qui me disent « Oui, mais justement, quand on se donne rendez-vous, après, je me sens obligée de quelque chose. » Et moi, je pense que le rendez-vous en lui-même est important, et en se disant qu'il y aura ou il n'y aura pas, et c'est OK. Mmh. Et il peut y avoir peut-être que des caresses, il peut y avoir peut-être que des massages, peut-être que de la tendresse, et c'est OK. C'est vraiment, voilà, parce qu'il ne faut pas que la femme y aille en se disant « Ah, ça y est, je vais passer à la casserole.
» C'est le moment à deux, en fait. C'est de se donner rendez-vous pour un moment à deux, peu importe ce qu'il advient, pour un moment d'échange à deux.
Oui, de se dire...
se rendre disponible, en fait, en termes de temps et dans sa tête aussi.
Ouais. Et puis peut-être séparer les rendez-vous qu'on peut conseiller au couple, le rendez-vous communication, verbal, du rendez-vous, comment on pourrait appeler ça, rendez-vous corporel ou érotique ou sensoriel. Tiens. Et de vraiment pas mélanger les deux. Que le rendez-vous sensoriel ne devienne pas un rendez-vous où, ah tiens, au fait, il faut que je dise... t'as fait un truc, là, ça m'a pas plu. Mais...
D'ailleurs, quand vous dites ça, ça me fait penser qu'il y a des études qui ont montré que les hommes qui sont plus investis dans les charges domestiques ou quand il y a plus de répartition de la charge mentale, voilà, que ça aide aussi à la reprise de la sexualité.
Ben, bien sûr. Évidemment, parce qu'on se sent soutenu, on se sent, on est un peu plus légère, on est plus disponible, et puis ça donne le message que l'autre est là pour nous soutenir, on n'est pas toute seule, hein, parce que là, quand il y a la charge mentale, c'est que parfois on a l'impression c'est un grand moment de solitude, on a l'impression qu'on porte tout sur le dos, et puis quoi en plus tu veux de la sexualité, non, tiens, faut pas oublier que parfois c'est notre manière de régler nos comptes, hein, aussi. On se ferme à la sexualité parce qu'on a quelque chose à régler, mais qu'on n'arrive pas à l'exprimer autrement. On n'arrive pas à l'exprimer avec des mots. Alors ça passe par la sexualité. On ferme, on coupe. Donc c'est pour ça que c'est important la communication, hein, parce que ça va permettre d'exprimer, de mettre à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur, qu'on a besoin d'exprimer, qu'on a besoin de sortir de nous pour libérer l'énergie au niveau de la sexualité et être à nouveau dans son cœur.
En tout cas, on a beaucoup parlé des perturbations, des modifications chez la femme, mais je crois que c'est aussi important de dire qu'il y en a chez les hommes. Et puis, souvent, il y a cette idée que la charge du désir repose sur les femmes qui doivent se rendre disponibles. Mais qu'est-ce que les hommes aussi font et mettent en place pour susciter aussi le désir chez leur partenaire?
Ben oui,
c'est des deux côtés. Quoi.
Bien sûr. On est à deux. Dans la sexualité, on est à deux, donc chacun a une part de responsabilité là-dedans.
Comment on peut se faire aider, accompagner? Judith, vous nous avez parlé d'être allée voir un éthiopathe, vous alliez revoir votre gynécologue. Quand on se rend compte qu'il y a un manque de satisfaction par rapport à sa vie sexuelle.
Ben oui, c'est aller se faire aider, je pense que c'est primordial. Et puis aujourd'hui, c'est moins tabou. Donc on peut y aller. Il y a beaucoup d'émissions de télé aussi maintenant qui parlent, qui libèrent la parole. Il y a des choses, il y a des livres, hein, comme on disait tout à l'heure. Il y a aussi des livres pour mieux comprendre aussi ce qui se passe pour moi, comment je fonctionne, les podcasts aussi. Hein, d'ailleurs, on est là pour ça. Donc oui, on a plein d'infos. Il s'agit en fait plutôt de trouver la bonne info ou l'info qui nous correspond. Parce que pour certaines choses, il y a une sorte d'infobésité là. comme ça vient de partout, on est un peu noyé là-dedans. Et puis parfois, ça fait l'effet inverse, c'est que ben, il y en a trop, non, je sais plus par où commencer, donc je fais rien. Donc, ça peut être aussi ben, en parler avec, avec ses amis pour sentir ou savoir que je ne suis pas la seule dans ce cas. Donc, c'est déjà oser en parler avec d'autres. Et puis, effectivement, ben, c'est le cas d'aller trouver, chercher la bonne personne, le bon thérapeute qui va vous aider, faire ce que j'appelle une tranche de thérapie hein, pour aller débloquer quelque chose ou pour aller comprendre ou pour justement sortir de certains tabous et puis sortir de cette forme de normalité, quoi.
Oui, pour s'approprier vraiment les choses et que ça ressemble à ce qu'on souhaite
voilà.
pour soi et voilà. pour son couple.
Oui, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'oser être soi. Et c'est vrai que c'est pas facile, hein, moi, les femmes me le disent.
Voire culpabilisant
oui,
aussi.
Oui, 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 exactement. Hein. Mais en fait, je pense que là-dedans, le message, c'est le premier message, c'est arrêter de vous conformer à ce qu'on vous dit. Et vous pouvez être, et vous êtes certainement différente d'ailleurs de tout ce qu'on vous raconte dans les émissions ou dans les magazines. Et donc c'est ben trouver ce qui vous va vous donner du plaisir, va vous faire jouir, va faire que votre vie est intéressante, que votre couple vous plaît, que vous avez envie de rester dedans. Et c'est toujours le regard qu'on porte sur soi. C'est la question importante, c'est de se dire est-ce que j'aime la femme que je suis aujourd'hui. Est-ce que j'aime la femme que je suis dans ce couple? Est-ce que j'aime la mère que je suis? Et si la réponse est oui, je continue. Si la réponse est non, c'est ben, qu'est-ce que je peux améliorer, changer et quelle est ma responsabilité là-dedans?
Dans cette nouvelle configuration du couple, hein, la sexualité, vous nous l'avez bien dit toutes les deux, Catherine et Judith, hein, voilà, et pas bannie, mais elle va se penser autrement, se réaménager, s'adapter. Ça peut amener aussi à de nouvelles découvertes de soi, de l'autre, que la sexualité est un apprentissage qui va évoluer tout au long de la vie. L'arrivée des enfants perturbe cette sexualité, mais il n'y a rien de grave à ça. Et si la grossesse est un révélateur de dysfonctionnement ou de difficultés antérieures, voilà, ça peut être aussi l'occasion d'en parler, de se faire aider, de se faire accompagner. Catherine, qu'est-ce que vous nous recommanderiez ?
Alors moi, ce que je recommande souvent, bah, sont les livres d'Yvon Dallaire, hein, dont le best-seller « Qui sont ces couples heureux ?». Et puis pour ce qui est plus vers le slow sex, le tantra, il y a un livre que j'aime beaucoup, qui est le livre de Steven Vazet. Laisser faire l'amour, voilà, justement. Je trouve déjà le titre est très beau et c'est un bel objet, déjà, ce livre aussi. Et je trouve qu'il va, comme c'est écrit par un homme, c'est vrai que ce livre parle aussi aux hommes, justement, et fait passer le message que la sexualité, c'est pas seulement cette mécanique de je rentre et je sors, mais c'est aussi je ressens ce qui se passe dans mon corps et j'accueille et j'accueille la lenteur.
L'éveil de tous les sens.
Voilà.
Alors moi, je recommanderais « Les joies d'en bas » de Nina Brönnmann, qui est un livre voilà, qui permet justement de mieux connaître comment on est faite, les femmes, voilà, de mieux connaître son sexe et de pouvoir se l'approprier. Il y a le « Slow sex » de Diana Richardson et « Pour développer sa libido » d'Alain Eril aussi, qui sont des livres passionnants. Un très grand merci, Judith, d'être venue partager avec nous vos difficultés sans filtre et en toute sincérité.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Catherine Oberlé. Je rappelle que vous êtes sexothérapeute, gestaltiste, coach et conférencière.
Merci beaucoup.
Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour continuer les échanges en toute bienveillance. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et on se retrouve dans un prochain épisode.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.